Le SNCL, le salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.
Merci d'être à notre écoute et présent avec nous en simultané sur Radio Immo et Radio Territoria. Vous êtes évidemment les bienvenus. Nous sommes durant 3 jours à Paris Expo Porte de Versailles pour couvrir avec nos équipes le Salon des maires et des collectivités locales. Vous le savez, c'est un seul et même lieu qui réunit le plus grand nombre d'élus et d'acteurs des territoires. Et nous avons justement sur notre plateau le plaisir de recevoir Henri Buzicazo. Bonjour Henri.
Bonjour Kenza.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous savez que vous êtes un peu membre de la famille. Vous êtes aussi président de l'Institut du Management des services immobiliers et membre du Conseil national de l'habitat. Alors je sais qu'avec vous, on va surtout parler justement des territoires, mais surtout des attentes des Français, parce que clairement depuis le Covid, les choses ont beaucoup changé. Avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous dire déjà 2 mots sur votre institut et surtout ce que c'est que le Conseil national de l'habitat ?
Alors déjà, je viens ici avec émotion à votre invitation, parce que avant mes 30 années d'immobilier, je fête mes 30 années d'immobilier, j'ai été auprès d'élus territoriaux, voilà, et donc je reviens dans ce lieu avec beaucoup d'émotion.
Très bien.
L'Institut, depuis plus de 20 ans, forme tous les professionnels de la filière immobilière, de l'amont, c'est-à-dire l'aménagement, la construction, avec un lien direct avec les élus, bien sûr, hein, jusqu'au métier de service de l'aval. Et nos diplômés vont, bien sûr, vers le logement privé, vers l'immobilier privé, ils peuvent s'occuper aussi de tertiaire ou de commercial, mais vers le logement social. Et de plus en plus, voilà. J'ai la fierté de dire que l'école forme des talents qui vont être au service de l'intérêt général.
Et des passionnés, surtout.
Et des passionnés. Passionnés,
oui. Les gens qui aiment aussi ce métier, avant tout. Alors, le Conseil national de l'habitat, quelles sont les actions, justement, de ce Conseil ?
Alors, le Conseil national de l'habitat, c'est une sorte de petit parlement dédié aux questions de logement. C'est-à-dire qu'on y retrouve représentés tous les grands acteurs privés, le monde associatif, les élus, ils sont présents aussi. Il est présidé aujourd'hui, et il est statutairement, par un parlementaire, un élu, c'est en l'occurrence Michaël Nogal, député de Toulouse.
On a déjà reçu à plusieurs reprises.
Oui, qui est un spécialiste des questions de logement. Et donc, il était très juste de le nommer à la tête de ce CNH. Le CNH est saisi obligatoirement de tous les textes, tous les projets de textes, projets de décret, projets de loi, projets d'arrêtés, qui concernent le logement. Voilà. Donc, on rend nos avis et on vote, et donc une majorité se dégage pour, contre les textes qui nous sont soumis par l'exécutif, par le gouvernement. Typiquement, les textes qui revoient le barème des aides au logement, les textes qui vont modifier le fonctionnement de l'hiver HLM, tout ça nous est soumis. Et puis on peut s'auto-saisir de questions qu'on estime très actuelles.
Oui.
Je vais en évoquer une parce que c'est précieux dans ce salon des maires. Ce sont les zones ultramarines. Les questions de logement outre-mer, sachant que...
On n'en parle pas assez.
La France lointaine, elle est en plus très diverse. Hein.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la Martinique, la Réunion ? Sûrement le soleil, mais pour le reste, des problématiques très différentes, sociales, économiques. Mais on s'est auto-saisi des questions de logement. Et donc, il y a un groupe de travail que nous avons provoqué, qu'a souhaité le président, mais qu'on a collectivement souhaité. Voilà, donc on peut estimer qu'il y a tel problème. Ça pourrait être la rénovation énergétique. C'est très actuel, on va sans doute en parler. Ça pourrait être des questions d'aménagement du territoire. Voilà, on est saisi et on peut s'auto-saisir.
Bah alors justement, en matière de rénovation énergétique, où en est la France aujourd'hui ?
Alors, la France, elle n'est pas un mauvais élève. Il faut se rappeler que depuis le président Chirac, elle a voulu être exemplaire. Alors, est-ce qu'elle l'est ?
C'est ça, est-ce qu'elle est porteuse d'exemple ?
Porteuse d'exemple, mais elle a aussi pris du retard. Par exemple, un domaine dans lequel nous avons un retard à rattraper, c'est celui de la copropriété privée. Bon. Mais l'immobilier public est en retard. On va être très clair. On marche dans nos rues, on voit l'État, on est face au stand du ministère de l'Intérieur, on voit l'état d'un commissariat de police. On voit bien qu'on n'est même pas souvent au niveau de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. C'est un service public, c'est nécessaire. Combien de fois on voit des marches pour aller dans une poste, pour aller donc. L'immobilier public est en retard. Il est en retard pour la transition environnementale. Et puis l'immobilier privé doit aussi mettre un coup d'accélérateur. Alors il y a cette loi du 22 août 2021, la loi climat-résilience, qui est absolument bouleversante pour l'univers du logement. Elle crée des obligations pour tout le parc locatif privé HLM. Privé HLM, ce sont très clairement des centaines de milliards milliards qui vont devoir être investis. La présidente du mouvement HLM, de l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuelle Cosse, ancienne ministre, a estimé lors du récent congrès des HLM qu'il fallait entre 80 et 100 milliards pour restaurer les quelques 5,5 millions de logements locatifs sociaux. Logements locatifs privés, c'est pareil.
Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'offres pour aider les copropriétaires à rénover leur...
Kenza, il faut réaliser une chose.
Il y a une contradiction.
Alors, c'est triste, sans doute, pour tous ceux qui, côté pouvoir public, la ministre du Logement, s'efforcent. La notoriété des aides est extrêmement faible. Est extrêmement faible. 80%, il y a eu plusieurs sondages récemment engagés, près de 80% des Français ont une idée extrêmement floue des aides. MaPrimeRénov', qui est l'aide vedette.
Oui, bien sûr, et qui a été renouvelée en plus.
Oui, mais alors nous, on en parle tous les jours, on est là-dedans.
C'est parce qu'on est dans le métier, effectivement.
Et la ministre dit puissante autorité, c'est faux. Donc il faut du temps, il faut de la simplification, parce qu'il y a trop d'aides, je le dis très clairement.
Ah oui.
Un trop grand nombre d'aides. Bon, et tout ça nuit évidemment à l'efficacité. Et puis il faut du temps. Cette loi qui fixe des règles du jeu pour le parc locatif, pour la copropriété, il faut qu'elle soit digérée. Elle est de fin août.
Oui.
Bon, il va falloir 6 mois pour que les acteurs professionnels, les ménages sachent à quelle sauce ils vont être mangés et quelles sont leurs obligations. Ils connaissent effectivement les aides.
Donc il y a un vrai fossé, vous voulez dire, Henri, entre le cumul d'informations en matière d'aide et ce que les gens ou les propriétaires, ou les copropriétaires savent de ce qui existe.
C'est tellement vrai qu'un un très récent sondage de Se Loger fait apparaître que... On a aujourd'hui une offre de biens à vendre qui sont des passoires énergétiques, comme on dit, c'est-à-dire qui sont les moins bien classés dans le diagnostic de performance énergétique, la fameuse échelle de couleurs. Les deux derniers barreaux, on voit des propriétaires qui préfèrent se séparer de ce bien. Donc ils ont une conscience confuse qu'il va y avoir des obligations, qu'il y a un texte
de
loi.
Au lieu de faire des travaux, au lieu d'investir.
Et ils se disent, tout ça c'est compliqué, je ne vais pas être assez aidé.
Moi, j'ai
pas l'argent. Je vends. Éventuellement, je prends la plus-value si je suis propriétaire depuis longtemps. Et on n'en parle plus. C'est dire le désarroi dans lequel les ménages se trouvent. Et de vous à moi, les professionnels de la gestion, de la transaction, c'est pas beaucoup mieux. Il faut aussi qu'ils apprennent quelle est la panoplie des aides, qu'ils puissent conseiller leurs clients pour leur dire ne vendez pas. Il y a des solutions. Et on va les trouver ensemble. Et vous allez rénover votre copropriété. Vous allez rénover l'appartement que vous louez. Voilà.
Alors, autre question aussi importante. L'aménagement des territoires post-Covid.
Oui.
Est-ce que le Covid nous a poussé à réfléchir différemment sur ce fameux aménagement des territoires ?
Oui, alors la Covid n'a rien créé. Je crois qu'on s'accorde à dire ça aujourd'hui. Elle a catalysé, elle a accéléré des mouvements qui étaient déjà à l'œuvre. Il y avait des signaux faibles, comme on dit. Alors, signaux faibles, on voyait que, par exemple, depuis déjà 5 ou 6 ans, Paris perdait 15 000 ménages par an. Bon. D'autres grandes villes commençaient à sentir ce mouvement. Et le regard des ménages, depuis ces dernières années, s'est détourné vers d'autres territoires que celui des métropoles.
Oui. Bon.
Tant mieux, parce que on s'acheminait, mais trop lentement, vers un meilleur équilibre des territoires.
Tout
s'est passé pendant des dizaines d'années, je vais dire les 40 dernières années, comme si on avait voulu que tous les Français se concentrent dans les 11 métropoles de France. On a fait cette erreur. On y a mis toute l'attractivité, les entreprises, la culture, les infrastructures sportives, on a tout mis là.
Alors qu'on a abandonné certains territoires.
Et donc on a abandonné certains territoires. Ouais. Alors les Français, après la Covid, parce qu'ils ont vu que il fallait mieux vivre qu'ils ne vivaient, que dans les métropoles, et quand ils étaient enfermés dans leur logement, qui n'était pas toujours celui qu'ils auraient voulu, pas assez vaste, pas assez lumineux, ils se sont dit on peut, sur d'autres territoires, pour moins cher, avoir des logements plus attrayants, avoir la proximité des espaces verts, avoir un rythme de vie différent. Et ce mouvement, aujourd'hui, il ne s'arrêtera plus. Alors, ces villes moyennes, ça faisait des années qu'elles se battaient, que leurs élus se battaient, toutes couleurs confondues, pour restaurer l'attractivité de ces villes moyennes qui, pour certaines, avaient eu des passés prestigieux. Bon, vous prenez Chartres, vous prenez Orléans, ça a été des villes royales. Bon. Et puis, elles se sont endormies. Elles sont en train de se réveiller. Et on voit bien que l'immobilier, c'est un signal très fort. Il faut regarder la valeur de l'immobilier, il faut regarder l'attractivité des biens immobiliers dans une ville. Si ça repart, ça veut dire que la ville repart. Voilà.
Tout à fait.
Et bien aujourd'hui, des villes qui étaient au fond du trou, il faut le dire très clairement. Prenez Saint-Étienne. Voilà. Saint-Étienne était désigné comme...
C'est un vrai exemple,
la...
Saint-Étienne,
oui.
Effectivement.
Alors, on avait
personne
Lyon...
ne voulait habiter à Saint-Étienne.
Personne.
À une époque,
on avait Lyon qui a gagné toute l'attractivité, une ville magnifique avec une activité économique, culturelle très forte. Et puis il y avait Saint-Étienne qui était dans les profondeurs de tous les classements. Bon. Aujourd'hui, et ça fait quelques années, donc ça ne s'est pas fait ces 18 derniers mois, la ville a gagné en attractivité à tous égards. Son patrimoine est en voie de restauration, privé, public. Les investisseurs, si vous allez à Lyon, vous avez des agents immobiliers qui vont vous dire investissez pour louer à Saint-Étienne. Vous allez payer beaucoup moins cher.
Oui.
Ça va augmenter dans les prochaines années. Alors que le ticket d'entrée pour investir à Lyon est très élevé. C'est peut-être trop tard pour acheter à Lyon. Voilà l'exemple. On pourrait citer Reims, on pourrait citer Le Mans, on pourrait citer enfin, toutes ces villes moyennes dans
toute
la France.
Donc le paysage est vraiment en train de se transformer.
Alors c'est tant mieux parce que la pression sur les métropoles, qui fait que les prix n'ont pas arrêté d'augmenter ces dernières années, jusqu'à l'insupportable.
Oui.
Bon, rappelons qu'à Paris, nous sommes à Paris, hein, alors c'est la ville à cet égard la plus... malheureusement, on est à 12 000 euros du mètre carré en moyenne. Bon, c'est terrible, mais on est à 6 ou 7 dans la plupart des autres grandes villes. Je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, où on peut atteindre des 8 et 10 000 euros du mètre carré. Donc, on voit qu'il y a entre 15 et 20% des candidats pour habiter ces métropoles il y a encore 2 ans. Qui se détournent. Voilà, il y a à peu près un cinquième des Français qui voulaient habiter Bordeaux, Marseille, Paris, qui disent, ben non, est-ce qu'il n'y a pas des villes, alors proches d'une grande ville, hein, bien sûr, parce que les grandes villes, elles ne vont pas perdre leur attractivité, mais est-ce qu'il n'y a pas des villes où on peut mieux vivre, payer le prix au mètre carré trois fois plus cher?
Évidemment.
Et bien sûr, il y en a. Et ce sont des belles villes, ce sont des villes qui gagnent à l'attractivité. Et troisième...
Puis quelle sérénité aussi, qui apporte une sérénité absolument. Qu'on n'a pas dans les grandes villes.
Et troisième partie du territoire, qui, lorsqu'il y avait eu des crises par le passé, perdait en valeur, souffrait, c'est les territoires ruraux.
Tout à fait.
Ces territoires et ces petites villes, ces bourgs de territoires ruraux sont aussi en train de se réveiller. Alors ces villes moyennes, comme ces villes rurales, vont avoir un problème, et l'ont déjà. Est-ce qu'elles sont en mesure, en termes immobiliers, d'accueillir les ménages qui viennent vers elles en nombre?
Mais il faut aussi développer les commerces, j'imagine,
alors,
et des services additionnels.
Naturellement, donc il faut qu'elles s'emploient à développer tous les services.
Essentiels et additionnels.
Je parle comme président d'école, c'est aussi beaucoup la pédagogie d'ailleurs, hein, c'est l'offre de formation. Quand on arrive avec... ses bagages, avec ses enfants, quel que soit leur âge, eh bien, on veut qu'ils aillent dans les meilleures écoles. Alors, les meilleures écoles, elles sont dans les grandes villes, dans les très grandes villes aujourd'hui, il faut dire la vérité. Mais c'est en train de changer. Des grandes écoles s'établissent dans des villes moyennes. Je pourrais citer l'ISC Paris, c'est une grande école de management, qui vient de faire le choix d'ouvrir aussi à Orléans.
Un pôle à Orléans.
Par exemple.
Ouais,
bon,
ouais,
voilà.
Bah,
et c'est le cas de toutes les grandes écoles d'ingénieurs ou de management. Voilà. On a donc ce mouvement qui est là, mais sur le patrimoine même, il y a un vrai problème. D'ailleurs, cet exécutif, quand il est arrivé, il n'a pas tout bien fait sur le logement, je l'ai déjà dit devant vous. Il y a une chose qui a été bien sentie par Julien de Normandie, par Édouard Philippe à l'époque, c'est le plan Action Cœur de Ville.
Tout à fait.
Et puis sa déclinaison plus récente pour les petites villes.
Petites villes de France.
Voilà.
Ouais.
L'idée, elle est simple, c'est de mettre des moyens, de mettre de l'ingénierie, de mettre de l'énergie pour que soit remobilisé le patrimoine, notamment en cœur de ville, de ces communes qui étaient délaissées. Vous savez, toutes ces communes, on les traverse souvent pendant les vacances. Bon.
Et on les trouve très belles d'ailleurs.
Alors on les trouve très belles.
Mais on n'a pas envie d'y habiter.
Voilà,
c'est vrai.
C'est également, on lève les yeux et on s'aperçoit. Alors déjà, à hauteur d'yeux, on voit qu'il y a des commerces qui ont fermé, c'est tout à fait vrai. Oui. Donc il faut le mouvement.
Et essentiel, souvent, c'est le café, la boulangerie.
Bien sûr. Ouais. Et puis quand on lève les yeux, on voit des immeubles aussi dont les volets sont fermés, et pas seulement parce que c'est les vacances, mais parce qu'ils ne sont plus occupés. Donc il y a un patrimoine vacant dans ces villes moyennes ou ces petites villes qu'il faut remobiliser. Il faut la volonté des élus, elle est là. Il faut la volonté des investisseurs particuliers. Le dispositif de Normandie, par exemple. On parlait tout à l'heure de méconnaissance du public. Bah, il manque de notoriété. Il est très bien fait. Voilà, je dis très clairement, c'est un puissant booster fiscal. Vous investissez dans un logement ancien qui exige des travaux parce qu'il a été délaissé. Dans telle ou telle ville moyenne ou petite ville, vous avez un booster fiscal si vous le louez ensuite et que vous apportez une offre locative à cette ville. Bon, voilà, donc il y a des outils puissants, il faudra en rajouter. Il faut saluer d'ailleurs ce qu'a fait l'actuel Premier ministre, M. Castex. Il a annoncé que Action Cœur de Ville continuait jusqu'en 2026.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, et je veux dire que c'est très rare qu'un exécutif qui sait que sa vie est comptée, bon, peut-être qu'il sera reconduit, je n'en sais rien, peut-être que le président Macron se représentera, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on a des élections, une séquence va s'arrêter. Eh bien, le Premier ministre, l'exécutif dit, il y a des sujets sur lesquels la temporalité politique ne compte pas.
Oui.
Il faut que ça continue, et ça continuera, quel que soit le futur président, la future présidente. Il y a un engagement de l'État, des moyens qui sont alloués, on parle en milliards, pour restaurer ces cœurs de ville. On voit aussi que d'autres plans vont prendre le relais. Il va falloir un plan pour les communes rurales. Il n'y en a pas encore. Ici, vous parlez avec un maire rural, il va vous expliquer le problème. Il a des ménages qui arrivent, il n'a pas le patrimoine. Il a des vieilles maisons, des vieilles fermes à restaurer. Souvent, il est désemparé, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas où trouver les moyens. Voilà. Donc, il y a un chantier énorme. À l'arrivée, un meilleur aménagement du territoire. Un pays qui s'était déséquilibré, qui a pas vu les périls liés à ça et qui est en train de se rééquilibrer.
Et qui s'adapte aux nouvelles attentes des Français.
Ce sont les Français qui font cet aménagement du territoire. Alors il y a eu, à une époque, un aménagement du territoire volontariste. Bon, on se rappelle, la Datar, le général de Gaulle. Bon, c'est-à-dire, on disait, voilà ce que ça doit être. De vous à moi, on ne sait plus trop faire ça, ce qui est sans doute une erreur. Eh bien, les Français prennent le relais. C'est-à-dire qu'eux disent, mais nous, on ne veut plus de ça. Nous avez tous mis dans les métropoles. Ça devient inaccessible pour beaucoup d'entre nous. Alors, on veut trouver d'autres solutions.
Oui.
Et il va falloir leur apporter. C'est aussi, d'ailleurs, l'idéal du Grand Paris, du Grand Toulouse. C'est-à-dire qu'on dit oui à la ville-centre, mais multiplions les pôles d'attractivité autour, qui soient beaucoup plus abordables. Et demain, on a pris du retard sur le Grand Paris, mais demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à une demi-heure maximum de Paris, on pourra avoir des lieux bien plus agréables pour la plupart des ménages, où ils pourront avoir un logement plus grand, une qualité de vie, tout en bénéficiant de la proximité par les infrastructures de Paris. Et même chose à Bordeaux, même chose à Toulouse, même chose pour toutes les grandes villes. Voilà, on ouvre une nouvelle séquence à cet égard de la vie du pays, et franchement, c'est très heureux. Ce qui se serait passé en 10 ans, la Covid fait que ça va se passer en 5 ans. Voilà.
Ce que j'ai envie de retenir, finalement, Henri, c'est le rééquilibrage territorial.
Hein. Oui.
C'est vraiment le mot que j'ai envie de retenir par rapport à votre discours.
Hein. Oui. On va avoir un pays beaucoup plus équilibré.
C'est
une bonne nouvelle.
Ouais.
Parce qu'à l'arrivée, il faut aussi en attendre une accalmie. Peut-être une baisse sur le moyen terme des prix dans les métropoles.
Oui.
On a un vrai problème. Vous parlez ici avec les maires des grandes villes ou des villes qui les entourent. C'est un cancer aujourd'hui. Le maire de Bordeaux, M. Urmic, la maire de Paris ne se réjouissent pas de ce qui se passe. Le maire de Lyon. Et comment on fait quand il y a un décrochage avec la solvabilité des ménages et même des cadres sup?
Surtout que ça devient accessible aussi aux riches, quoi. Simplement aux riches ou à ceux qui ont de gros moyens.
Oui, le déséquilibre du territoire à fabriquer des métropoles de riches.
Tout à fait.
C'est exactement ça. Démocratiquement, c'est pas admissible. Vous savez, les Gilets jaunes, c'était la révolte de territoires délaissés. C'est ça l'histoire.
Effectivement.
Voilà. De gens qui étaient obligés d'aller ailleurs parce qu'il n'y avait plus d'attractivité dans leur commune. Alors ils faisaient des kilomètres.
Alors que leur boulot était au centre-ville ou dans les villes
Exactement.
Dans lesquelles ils voulaient habiter. C'est
Exactement.
Ça le problème.
Hein. Exactement.
C'est qu'on n'a plus les moyens d'habiter dans la ville dans laquelle on travaille.
C'est hein. tout à fait ça. Et ouais. donc le mouvement des Gilets jaunes, vous savez, il est en nous. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de ces territoires délaissés.
C'est vrai.
On ne peut pas mettre au banc de nos territoires une partie de la population. Ça n'est pas possible. C'est ce qui fait d'ailleurs.
D'accord.
Et la ministre du Logement, bon. C'est repenti à cet égard, mais on ne peut pas insulter la maison individuelle, parce que la maison individuelle, c'est un habitat qui peut permettre aussi de rééquilibrer avec un certain nombre d'exigences pour que ce soit conforme à la transition environnementale, c'est certain.
Très bien. En tout cas, tous ces beaux messages sont passés, Henri Buzicazo. Merci beaucoup d'avoir
Merci
été notre
Kenza.
Invité, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers et membre du Conseil National de l'Habitat. Vous êtes toujours le bienvenu sur nos plateaux.
Je vous remercie
Merci
beaucoup.
Merci beaucoup.
Le SNCL. Le Salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.